dans ce deuxième chapitre, je vais vous présenter les différents composants qui constituent le circuit primaire. Donc vous voyez ici sur le schéma, à l'échelle relative, les différents composants qui composent le circuit primaire, donc la cuve du réacteur nucléaire au sein de laquelle se trouvent les assemblages combustibles et le cœur du réacteur. Les pompes primaires, donc sur un schéma 4 boucles, vous avez 4 pompes primaires qui chacune assure la circulation entre le cœur, les branches reliant le cœur au générateur de vapeur. Donc, le générateur de vapeur est situé lui également sur un des quatre circuits d'un 4 boucles. Donc le générateur de vapeur, vous voyez que c'est un appareil qui a une dimension assez importante. Et sur l'une des branches circuit primaire, simplement une des quatre branches, se situe le pressuriseur qui assure à lui tout seul la pression dans l'ensemble du circuit primaire, puisque tout est relié ensuite par l'intermédiaire du circuit. Les quatre circuits ne sont pas indépendants à l'intérieur de la zone du cœur du réacteur. Donc les fonctions, si j'ose dire, ou qu'est-ce qui se passe dans chacune des zones. Donc au niveau des assemblages combustibles, donc c'est là où se produisent les réactions de fission, les réactions nucléaires qui produisent de l'énergie. Dans le cœur du réacteur, donc on a donc les assemblages combustibles où se déroule la fission, et donc au sein du cœur du réacteur se situe la circulation du fluide qui transporte l'énergie vers les générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur assurent le transfert thermique entre la partie primaire et la partie secondaire. Le pressuriseur maintient le circuit en monophasique, hein, liquide, et les pompes primaires maintiennent le début de circulation dans chacune des branches. Donc chacune des branches devant rester équilibrée. Alors, au niveau des assemblages combustibles, un assemblage combustible est constitué d'un ensemble de crayons combustibles. Donc les crayons combustibles, on les voit ici, hein, ce sont des éléments creux qui sont d'une vingtaine de millimètres, hein, 19 millimètres, à l'intérieur desquels sont situées des petites pastilles d'oxyde d'uranium. Donc l'ensemble de ces pastilles d'oxyde d'uranium, empilées les uns au-dessus des autres, sont contenus dans un crayon combustible, et les crayons combustibles sont ensuite disposés dans un assemblage combustible, hein, qui est un ensemble de, disons, de 15-15 ou 17x17 crayons combustibles. Donc ces crayons combustibles sont ensuite maintenus ensemble dans un assemblage par des grilles, par des plaques inférieures, des plaques supérieures, donc, et par des grilles de maintien et de mélange. On voit ici comment un assemblage combustible est constitué. On voit ici la zone inférieure où le fluide va circuler pour alimenter l'ensemble des espaces entre les crayons combustibles, ce qu'on appelle la plaque inférieure de cœur. Vous voyez les embouts inférieurs des assemblages, et vous voyez ici les pieds, hein, qui seront positionnés en partie basse sur la plaque inférieure du cœur. Alors, vous avez ici un détail de ce qu'est une grille d'assemblage combustible, avec des éléments ici qui sont des sortes de bossettes, hein, qui permettent de bossettes ou de petits ressorts, hein, qui permettent d'espacer les assemblages entre eux et au sein des assemblages les crayons, hein, garder leur espacement. Et puis des petites grilles ici qui sont des grilles de mélange. On verra un petit peu plus loin le rôle qu'elles sont censées jouer. En plus de ces des zones disposées pour les crayons combustibles eux-mêmes, un certain nombre de places sont réservées pour faire passer des grappes de commande et des grappes de contrôle, hein, qui peuvent monter et descendre au sein de l'assemblage combustible. Donc ces grappes sont ici. On voit qu'elles sont, elles peuvent circuler au sein de fourreaux, hein, qui sont mis à la place de crayons combustibles. Donc ici quelques grandeurs caractéristiques. Donc typiquement sur un assemblage de ce type, la 17x17, on aura finalement des dimensions qui sont de l'ordre de 214 sur 214 mm. Donc vous voyez que ce n'est pas très grand, hein, ça fait 20 cm de côté finalement l'assemblage combustible. C'est composé de 264 crayons et de 25 tubes guides. En fait, les tubes guides, ce sont les fourreaux, donc 24 sont utilisés pour les grappes de commande et de contrôle, et un est utilisé pour mettre de l'instrumentation. Donc, la masse de cet ensemble-là, c'est environ 650 kg. Vous voyez que le diamètre extérieur de ces crayons combustibles, c'est 9 mm. Donc, c'est très petit. Et la hauteur globale d'un élément combustible, en tout cas de la partie active d'un crayon, c'est 3,6 mètres. Au niveau du cœur du réacteur, maintenant, ces assemblages sont disposés dans le cœur du réacteur. Le cœur est finalement enveloppé dans une cuve, hein, une cuve qui est de l'acier qui va maintenir, effectivement, qui va permettre de maintenir la pression au sein du fluide primaire, et qui dispose d'un certain nombre de sorties et d'entrées pour permettre au fluide d'alimenter le cœur et de repartir vers les GV. Vous voyez une vue, une photo de ce qu'est une cuve de réacteur. Ici, vous avez un schéma d'implantation des différents assemblages combustibles sous cette forme-là. Donc, les assemblages combustibles, je les ai décrits auparavant, mais ils sont disposés, les assemblages sont disposés ici, les uns à côté des autres, éventuellement avec des assemblages qui n'ont pas tous séjourné dans le même temps dans un cœur de réacteur. Donc, le contrôle de la puissance neutronique se fait au travers de l'utilisation des grappes de contrôle et de commande, mais aussi au travers du circuit caloporteur qui, comme je vous l'avais indiqué dans le chapitre précédent, peut contenir du bore. Et donc le bore va servir aussi à modérer la réaction neutronique et à piloter la puissance du cœur. Si on fait un bilan d'énergie sur ce qui se passe au sein du cœur du réacteur nucléaire, donc vous avez les réactions de fission qui produisent de l'énergie. Et donc on peut classiquement faire un bilan d'énergie sur le circuit, sur l'eau qui circule au sein du réacteur, donc l'entrée et la sortie de la zone active. Typiquement, un bilan d'énergie expliqué par cette équation. Donc la variation d'énergie interne, potentielle et cinétique, hein, en fonction du temps, c'est la somme des entrées-sorties de l'enthalpie, de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, plus les échanges de chaleur, plus la puissance également transférée par énergie mécanique. Donc ça, c'est l'équation très générale qui est indiquée avec les détails ici. Et donc, si on utilise des hypothèses sur un cœur de réacteur, on aura... on peut se placer dans des situations stationnaires, dans les situations effectivement où on peut raisonnablement négliger l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Bon, l'énergie cinétique essentiellement parce que elle sera faible devant les puissances thermiques en jeu et on reste en liquide. Et puis il n'y a pas de puissance mécanique échangée, hein, tout est statique. Donc finalement, quand on fait le bilan de cette d'énergie sur un cœur de réacteur, on a la masse, le débit massique qui circule fois la différence d'enthalpie entre la sortie et l'entrée, c'est équivalent à la puissance du cœur produite par la fission. Donc typiquement pour un cœur de 900 MW, on a une température d'entrée de l'ordre de 284 degrés, une température de sortie aux alentours de 322, la puissance qui est échangée dans le cœur du réacteur ou produite dans le cœur, c'est 2700 MW. Donc vous voyez ici des ordres de grandeur caractéristiques, de niveau de température, de débit qui passe dans le cœur, de puissance échangée. Et pour information, la température de saturation à 150 bars est de 345 degrés. Donc vous voyez qu'on a à peu près 20 degrés d'écart entre la température la plus chaude en sortie du cœur et la température de saturation à température à laquelle le fluide peut éventuellement passer en mode ébullition en diphasique. Si on regarde maintenant un générateur de vapeur, donc les générateurs de vapeur, ce sont des composants échangeurs composés de tubes en U. Donc vous voyez ici par le dessus l'ensemble de ces tubes. Donc les tubes peuvent être très nombreux suivant le palier, c'est-à-dire la puissance du réacteur nucléaire. Donc c'est des puissances de 900 MW ou 1300 MW ou 1400 MW, voire au-delà 1650 MW puisque l'EPR vise ce niveau de puissance. Donc vous avez 3 GV sur les paliers 900, ce sont des réacteurs à 3 boucles, et 4 GV pour les paliers 1300, N4 ou EPR. Et donc le nombre de tubes varie entre 3300 tubes pour les réacteurs 900 et 6000 tubes environ pour les réacteurs type EPR, avec des tubes en U inversé. Donc les tubes sont en forme de U inversé. Le fluide primaire circule à l'intérieur de ces tubes et le fluide secondaire, on voit ici, circule donc au travers de ce faisceau d'assemblage. Les tubes sont maintenus évidemment par des plaques entretoises à différents niveaux. Il y en a 8 ou 9 suivant les types de GV. Le diamètre de ce type d'échangeur, c'est 4 mètres de diamètre et la hauteur est supérieure à 20 mètres. Bon, si on regarde un éclaté ici avec le détail de l'échangeur, on voit que la zone d'échange thermique est ensuite surmontée d'un ensemble de systèmes qui sont des séparateurs de vapeur, puisque ce qui est prévu dans le fonctionnement du générateur de vapeur, c'est que la vapeur qui est produite en sortie du générateur de vapeur n'est pas, en fait, le fluide n'est pas totalement vaporisé. Seul un quart de la, environ un quart de la, du fluide est vaporisé, et donc le rôle des séparateurs et des sécheurs, c'est de séparer la partie liquide de la partie vapeur. La partie vapeur qui a été séchée ensuite part en direction de la turbine. Par contre, une grande partie du liquide va recirculer à nouveau dans le générateur de vapeur. Donc typiquement, si on regarde un peu de la vue de l'extérieur, le secondaire arrive avec une température de l'ordre de 220 degrés par les tubulures d'alimentation, tandis que le primaire, lui, est à 322 degrés. Donc le primaire va se refroidir dans les tubes, en circulant au travers des tubes d'échangeur, et le secondaire va se réchauffer et se vaporiser. Donc typiquement, la température du primaire va s'abaisser de 322 à 284 degrés. Et sur la partie secondaire, en fait, le fluide secondaire alimentaire, va circuler en branche froide avec une partie de l'eau qui aura été séparée au niveau des étages de séparateur et qui va recirculer également. Donc on aura un mélange entre l'eau alimentaire et l'eau recirculée qui va alimenter la partie basse du générateur de vapeur. Le tout va être vaporisé et donc on aura de nouveau un cycle de circulation. Donc ça, ces GV qu'on utilise sont des GV à recirculation. Et la vapeur va être vaporisée à une température de 270 degrés qui correspondra à la température de saturation du générateur de vapeur. Donc si on fait le bilan d'énergie de la même manière que pour le cœur de réacteur, on peut appliquer le même type d'équation. Cette fois-ci, je me suis mis directement en régime permanent. Et donc quand on fait les simplifications associées, on voit que le bilan d'énergie peut s'écrire en simplifiant finalement le débit massique primaire multiplié par la différence d'enthalpie va être égal plus le débit massique secondaire fois la différence d'enthalpie sortie moins entrée va s'annuler. Donc, ça permet de faire des bilans thermiques sur nos deux circuits. On connaît sur l'un et connaît sur l'autre, on peut avoir des informations sur les niveaux de température. Bon, mais typiquement pour un générateur de vapeur, vous voyez les types de température qu'on va atteindre. Donc, ce que je vous ai présenté ici, ce sont les on peut schématiser l'évolution du fluide dans un diagramme ici qui est un diagramme TH, c'est-à-dire T la température, H l'enthalpie. Donc on voit que pour la partie primaire dont la pression est à 150 bars on est bien en zone liquide ici et la température descend de 322 à 284 degrés. Et pour la partie secondaire, on part à 220 degrés. Le fluide va récupérer l'énergie sur une certaine partie jusqu'à atteindre la température de saturation. Et lorsque le fluide secondaire aura atteint la saturation, eh bien, le processus d'évaporation se fait à température constante, à la pression de 55 bars ici, par exemple, et on va rester à 270 degrés. Et donc l'énergie récupérée va permettre de vaporiser une partie du débit qui circule. À la fin, le titre, on appelle ça, c'est le rapport entre la quantité de vapeur présente par rapport à la chaleur latente totale de transfert entre la vapeur et le liquide à saturation. On a l'enthalpie de sortie permet de calculer le titre en vapeur à la sortie, qui est en fait la masse ou le débit de vapeur par rapport au débit total. On l'obtient de cette manière-là. Allons un petit peu plus loin. Donc les turbines, ce sont des composants, vous voyez, qui sont constitués sur un même arbre d'un ensemble d'ailettes ici. Donc vous voyez ici un personnage là qui est au milieu. Donc vous voyez un peu vous pouvez vous rendre compte que une turbine c'est assez gigantesque et ça prend effectivement beaucoup de place dans la centrale nucléaire. Donc son objectif c'est de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Donc si on regarde un peu un schéma ici en température entropie, donc l'idée c'est que on va opérer une détente entre la pression élevée de l'ordre de 55 bars et une pression beaucoup plus basse, et au travers de cette détente le fluide la vapeur va transférer son énergie thermique sous forme d'énergie mécanique. Donc si on regarde un peu ici à côté le bilan d'énergie, on aura la masse circulant, le débit massif circulant fois l'écart d'enthalpie qui sera égal à la puissance récupérée sur la turbine. Alors après, pour faire des calculs de manière un petit peu plus précise, on peut considérer la situation où la détente serait irréversible d'une part et adiabatique, ce qui nous permet de dire qu'on a une détente isentropique, donc je l'ai schématisé en rouge, donc vous voyez qu'on a entre la pression élevée et la pression basse, on a effectivement une détente en rouge, mais en réalité, cette détente ne se fait jamais de manière isentropique, ou de manière irréversible, et en fait, la détente réelle place le point d'arrivée à l'aval des turbines à un niveau d'entropie qui est supérieur à celui qu'il avait au départ. Donc ce rendement finalement est le rendement isentropique est inférieur à 1. On peut calculer le rendement de la turbine par ce type de formulation, c'est-à-dire l'enthalpie du fluide à la sortie de la turbine moins son enthalpie à l'entrée sur l'enthalpie du fluide à la sortie de la turbine pour la pression atteinte dans le cas où cette détente serait isentropique, moins l'enthalpie à l'entrée. Et donc ça permet de définir un rendement de la turbine et de calculer des bilans d'énergie sur ce composant. Enfin, le condenseur. Le condenseur, c'est le composant qui va servir à extraire l'énergie de la vapeur à basse pression, qui va donc recondenser cette vapeur par changement de phase et qui va permettre ensuite au liquide récupéré des condensats d'être réalimenté, de rejoindre le circuit de chauffage vers le générateur de vapeur par une pompe. Donc, globalement, vous voyez que le condenseur, ce sont C'est un échangeur qui a une forme très très particulière dans les condenseurs utilisés à EDF, une forme un peu de fleur ou de marguerite, là, d'épi rayonnant, on dit aussi, pour lesquels les tubes sont assez longs. Hein, on voit la trace des tubes ici, et en fait, les tubes font une quinzaine de mètres de long, et il y a des milliers de tubes hein, qui sont utilisés pour assurer l'échange entre la partie vapeur en condensation et la partie liquide qui circule à l'intérieur et qui va se réchauffer pour aller vers la source froide.